la monarchie élective étant fondée, s'est-on soumis aux conséquences du principe de cette monarchie ? Quelle a été la conduite du gouvernement à l'intérieur et à l'extérieur ? Intérieur. À l'intérieur, on s'est dit, il y avait autrefois un roi sous lequel on jouissait d'une des constitutions les plus libres qui fussent au monde. Malheureusement, ce roi ne voulait point de cette constitution. Qu'est-ce qu'il y avait à faire ? Changer ce roi comme on change un ministre. Marcher sous un nouveau monarque, ami de la charte, avec les hommes et les principes de la Restauration. Au commencement de cette Restauration, de vastes cervelles disaient aussi qu'il suffisait de changer les draps du lit de Buonaparte et d'y coucher Louis XVIII. Cela fait, ce serait tout un. On oubliait que les draps du lit de Buonaparte étaient des drapeaux, qu'il y dormait avec la gloire. La légitimité ne ramenait pour compagne de couche que la liberté. Les têtes carrées qui ont imaginé de glisser Philippe dans le lit de Charles ont oublié à leur tour que la révolution de juillet a transporté du monarque au peuple le principe de la souveraineté, que la royauté sortie de l'élection populaire essayerait en vain d'échapper aux conséquences de son principe, qu'elle ne pourrait ni ne devait agir d'après les lois de la légitimité, que du moment où elle se séparerait des hommes et des choses qui l'ont créée, elle perdrait sa force. Ce qu'il fallait à cette royauté, c'était de l'élan, de la jeunesse, de l'intrépidité. Tourner le dos au passé, marcher avec la France nouvelle à la rencontre de l'avenir, telle était sa destinée. De cela elle n'a cure. Elle s'est présentée amaigrie, débiffée par les docteurs qui la médicamentaient. Elle est arrivée piteuse, les mains vides, n'ayant rien à donner, tout à recevoir, se faisant pauvrette, demandant grâce à chacun, et cependant hargneuse, déclamant contre la légitimité et singeant la légitimité, contre le républicanisme et tremblant devant lui. En colère quand on lui parle d'abaisser le sang électoral, le ministère l'abaisse. En colère quand on lui demande l'abolition de l'hérédité de la pairie, il l'abolit. Ce système pansu ne voit d'ennemis que dans deux oppositions qu'il menace. Pour se soutenir, il s'est composé une phalange de vétérans réengagistes. S'ils portaient autant de chevrons qu'ils ont fait de serments, ils auraient la manche plus bariolée que la livrée des Montmorency. La monarchie quasi-légitime a toutes les passions et tous les instincts de la monarchie légitime sans les oser avouer. Elle aimerait la pompe et surtout la richesse. Mais quand on est élu par le peuple, le moyen de lui prendre son argent. La liste civile ne peut plus être un vote d'amour. On ne peut plus livrer aveuglément au trône des millions et des millions. En Angleterre, l'emploi et la répartition des sommes de la liste civile sont soumis à l'examen des communes. Qui ne voit, en effet, qu'un roi pourrait mettre dans sa poche ce qu'on lui donne, placer à l'étranger ou chez la nation même des trésors accumulés, lesquels trésors lui permettraient ou de fuir dans les temps d'orage, ou de corrompre l'armée et les chambres pour détruire la liberté. Nos pères, qui ne connaissaient pas la liste civile, avaient senti le danger de la fortune individuelle royale. Le domaine de la couronne était inaliénable. La couronne ne pouvait acquérir qu'à son profit, jamais au profit de la personne couronnée. Quand le souverain parvenait au trône, avec des propriétés particulières, ces propriétés étaient à l'instant réunies aux propriétés publiques du trône ou données à des parents quand elles étaient de peu de valeur. On ne sait pas de quel droit la royauté élective pourrait soustraire sa liste civile au contrôle de la monarchie constitutionnelle, ou ses meubles et immeubles à la loi domaniale de la monarchie absolue. Les lois proposées aux chambres se ressentent du peu de génie, du mélange d'irritation et de frayeur de l'administration. Je n'en citerai qu'une, la loi relative à la pairie. La chambre dont j'ai eu l'honneur d'être membre, dans laquelle j'ai souvent admiré de rares talents, des connaissances profondes en administration et en politique, de nobles sentiments de liberté. Cette chambre, à qui la France doit ses meilleures lois, et qui occupera une belle page dans notre histoire. Cette chambre a malheureusement fait naufrage au port. La vertu humaine a son terme. Qui n'a failli? La pairie anglaise offrait à la pairie française deux exemples de nature diverse. En 1649, au moment où le procès de Charles Ier allait commencer, la Chambre haute rejeta le double bill de la mise en jugement et de la formation d'une cour de justice. Les communes rendirent aussitôt cet arrêt. Attendu que les membres des communes sont les véritables représentants du peuple, de qui, après Dieu, émane tout pouvoir, la loi naît des communes et n'a besoin pour être obligatoire ni du concours des pairs ni de celui du roi. Le 25 décembre 1688, la Chambre des Lords prit l'initiative et présenta une adresse au prince d'Orange pour le prier de se charger de l'administration du gouvernement, en attendant qu'une convention fût convoquée aux fins de disposer de la couronne. La pairie britannique succomba avec Charles, mais elle se ménagea par son sacrifice une résurrection éclatante. La même pairie, en faisant la première démarche auprès de Guillaume, se mit à la tête du mouvement, prit le pas sur les communes et devint l'arbitre des destinées de l'Angleterre. Si la pairie française ne trouvait pas en soi cette double puissance de fidélité et d'infidélité, elle pouvait adopter une résolution plus conforme peut-être à son esprit de modération. Elle pouvait déclarer que ses pouvoirs n'émanant pas du peuple, mais de la royauté, ils expiraient au moment où cette royauté expirait elle-même, comme un fleuve cesse de couler lorsque sa source est tarie. La noble chambre ne s'est arrêtée à aucune de ces trois résolutions. Mal conseillée, elle s'est contentée de prononcer un serment à la suite, de viser la charte qu'on lui transmettait pour mémoire, dans laquelle était écrit son arrêt de mort. L'opinion l'a mise au rang où elle s'est elle-même placée à la suite. La manière dont on s'est proposé de reconstituer la pairie a quelque chose de la monarchie confuse de Juillet et du tripotage des velléités et des craintes ministérielles. Point d'hérédité qu'on voulait au fond de l'âme et qu'on implorait par amendement. Des catégories qui ne créent pas une véritable aristocratie et qui détruisent l'égalité nationale. Aristocratie qui résulte du privilège des places, comme l'aristocratie de cour, tandis que les classes en dehors de ces places, c'est-à-dire le peuple, est exclue. Louis XVIII avait mieux entendu la pairie parce que la pairie était contemporaine de la légitimité. Il pouvait dire à un chiffonnier « Mon ami, je te fais pair ». Et le chiffonnier était pair, et lui et sa race participaient de la souveraineté nationale et royale. Là, il y avait égalité. Le principe démocratique était respecté, en même temps que le principe aristocratique brillait dans cette puissance éclose d'une parole. Puissance dont pouvait être revêtu le dernier homme du peuple. Au surplus, dans la question de l'hérédité de la pairie, on s'était étrangement flatté. Dès le premier moment, c'était à mes yeux une question perdue, car elle touchait à la passion dominante de la France, l'égalité. Attaquez la liberté et vous aurez des chances de succès, même parmi ceux qui ont sans cesse le mot d'indépendance à la bouche. Mais ne touchez pas à l'égalité. Proposeriez-vous la chose la plus excellente, elle sera rejetée avec une sorte de fureur pour peu qu'on y entrevoie une apparence de distinction sociale. C'est là la plaie ou la vertu nationale. Plaie, elle est inguérissable et s'étendra jusqu'à la propriété. Vertu, elle est incorruptible et ne peut céder qu'à l'épée. Buonaparte avait recomposé une noblesse dans l'armée. La noblesse vient du fer. Jamais on ne fera jaillir de la tribune, avec le glaive de la parole, une hérédité bourgeoise à l'usage de tous les caudataires des ministres présents et futurs. Lorsque l'antique pairie anglaise se peut à peine défendre, est-ce la moderne pairie française qui tantôt s'est laissée gorger par des fournées, tantôt mutilée par la chambre élective? Est-ce une telle pairie qui aurait pu sauver son hérédité, elle qui n'a pas su en défendre le principe dans l'hérédité de la couronne? Quand cet écrit sera publié, il y aura donc une seconde chambre de fonctionnaires en retraite, d'invalides blessés dans les bureaux, laquelle chambre, ou produite par un pouvoir dit constituant, ou par le consentement de la pairie à ses propres funérailles, complétera, délayée dans une immersion de nouveaux pairs, la démocratie royale, et se traînera tant que faire se pourra. C'était gaspiller le temps que de prononcer des discours sérieux touchant la pairie, comme s'il y avait en France une pairie, comme s'il existait dans ce pays quelque chose au-delà d'un fait que chacun connaît. Les libertés ont-elles été mieux élaborées que les lois? Comptez les procès intentés aux brochures et aux feuilles publiques, 228 dans un an. Écoutez les malédictions lancées contre la liberté de la presse. Lisez-les dans les journaux officiels et officieux, et remarquez parmi les amis des ministres des hommes qui, sous Louis XVIII et Charles X, ont été les fauteurs et les conseillers des lois d'exception. Cette disposition ne m'étonne point. J'ai prévu et prédit dès le premier moment que la monarchie surnommée républicaine ne pourrait marcher avec la liberté de la presse. La légitimité seule était capable de la braver. Chaque jour, cette liberté démolit pierre à pierre l'édifice qu'on élève. Tôt ou tard, ce gouvernement sortit des entrailles de la liberté de la presse, égorgera sa mère. C'est un moyen, avec nos humilités diplomatiques, de nous faire chérir des monarchies absolues de l'Europe. Il ne nous manquera plus, pour protéger la censure, que de rappeler les Suisses. Le juste milieu, la liberté avec des places de commis aux douanes et aux lettres, sont devenues la passion de Juillet corrompue et dénaturée. Ne parlez pas d'honneur, les fonds baisseraient de 10 centimes. Tel homme perdrait son portefeuille, tel autre son brevet de valet de garde-robe. Jusqu'ici, les ministériels de race n'avaient réussi qu'à procréer des ministres. Ils sont parvenus à engendrer une monarchie domestique. Je doute que la liberté se plaise longtemps à ce pot-au-feu. Les Francs l'avaient placée, cette liberté, dans un camp. Elle a conservé, chez leurs descendants, le goût et l'amour de son premier berceau. Comme l'ancienne royauté, elle veut être élevée sur le pavois, et ses députés sont soldats. La religion n'a pas trouvé plus de sympathie dans l'administration qui laisse insulter sur les théâtres le culte public et livrer à la dérision les choses saintes. Cette administration va à la chasse des croix. Elle les poursuit dans la prison de Marie-Antoinette. Elle les bannit des tribunaux. Elle les ferait arracher des tombes si une impiété aussi bête qu'effrontée s'avisait de lui demander ce nouveau sacrilège. Croit-on se mettre en harmonie avec l'opinion de la France et de l'Europe par cette haine antichrétienne renouvelée du voltairianisme et de la terreur, de la moquerie et du crime? On ignore donc qu'on se sépare ainsi des sentiments intimes de l'humanité? Les héros de l'époque, les Polonais, sont morts pour l'indépendance de leur nom et de leur patrie, en invoquant la Vierge Sainte, en pressant sur leur cœur cette croix, objet du philosophique mépris de nos nouveaux seigneurs. Il est vrai qu'il était plus facile aux vainqueurs des trappistes d'abattre une croix du haut d'un clocher que de l'enlever ou de la secourir, sur le cœur d'un Polonais. Il semble surtout qu'on ait pris à tâche d'insulter les sentiments catholiques dans les provinces de France, où ils ont le plus d'ardeur, tout en proclamant la liberté des cultes. Des vexations de tous les moments épuisent la patience des paysans de la Bretagne et de la Vendée. Ces populations chrétiennes, fidèles et guerrières, que Buonaparte admira, sont un objet de haine pour les féaux de la quasi-légitimité. Ils craignent aussi les populations de l'Est, animées d'un autre esprit, mais également généreux. Tout ce qui a quelque élévation est contraire à l'instinct des accapareurs de la victoire de juillet. Ce qui montre un si grand effroi de la guerre étrangère devrait du moins éprouver quelque répugnance pour la guerre civile. Un écrit fort remarquable nous fait connaître la position des royalistes dans le Midi. Après avoir décrit les mesures tyranniques prises par les autorités locales contre les habitants, l'auteur, M. de Larcy, dit « Qui donc peut avoir aujourd'hui le droit de déclarer nos départements en état de suspicion légitime et de nous traiter en peuple conquis ? Oui, c'est là le vrai mot de notre situation. Nous sommes les Irlandais de la France. Quel est celui de nos concitoyens ? De quelle religion n'importe ? Qui n'est encore en horreur le spectacle odieux de la liberté des cultes violée à Nîmes ? Qui ne s'est indigné à la vue de ces soldats entourant les croix, ornements de nos places publiques, et là faisant un grand vide, un désert, au mépris de la vie des hommes ? Car le sang a coulé. Il a coulé afin que quelques ouvriers étrangers puissent renverser en paix l'image du Sauveur du monde. » Fin des guillemets. Si la monarchie nouvelle, telle qu'on l'a conduite, était le vœu et l'intérêt de la France, pourquoi à l'intérieur cette vente des bois de l'État, cet accroissement des taxes et du budget ? Pourquoi cette ruine générale du commerce, cette cessation de tout travail, cet état de malaise des diverses classes de la société ? Pourquoi ce refus de l'impôt dans plusieurs villes ? Pourquoi cette inquiétude de tous les partis, de tous les individus ? Pourquoi cet armement de la population entière, cet appel continuel à la prudence, à la fermeté, au dévouement de cette garde nationale sans laquelle on aurait déjà roulé dans l'abîme ? Pourquoi ces émeutes répétées ? Jamais les ministres de Charles X déployèrent-ils autant de soldats pour ébranler un trône de 10 siècles que les ministres de Louis-Philippe pour soutenir un trône de 10 mois. Il est vrai qu'on n'a pas fait feu sur les jeunes gens qui ont donné la couronne de juillet. On s'est contenté d'en assommer discrètement et à petit bruit quelques-uns. Cette mort muette est en harmonie avec ces hommes de silence et d'obscurité qui ne brûleraient pas une amorce pour l'honneur de la patrie. Qu'on rejette, tant qu'on voudra, la cause de ces désastres sur les républicains ou les carlistes, sur ceci ou sur cela, un fait reste. Ces troubles ont commencé le jour de l'installation de la monarchie élective développée à la façon ministérielle. Extérieur. Passons à l'examen du système suivi dans nos relations extérieures. La faute immense du Congrès de Vienne est d'avoir mis un pays militaire comme la France dans un état forcé d'hostilité avec les peuples riverains. L'Angleterre a conservé presque toutes les conquêtes qu'elle a faites dans les colonies de 3 parties du monde, pendant la guerre de la Révolution. En Europe, elle s'est nantie de Malte et des îles Ioniennes. Il n'y a pas jusqu'à son électorat de Hanovre qu'elle n'ait enflé en royaume et agrandi de quelques seigneuries. L'Autriche a augmenté ses possessions d'un tiers de la Pologne, des rognures de la Bavière, d'une partie de la Dalmatie et de l'Italie. Elle n'a plus, il est vrai, les Pays-Bas. Mais cette province n'a point été dévolue à la France. Elle est devenue, contre nous, une auxiliaire de l'Angleterre. La Prusse s'est agrandie du duché ou palatinat de Posen, d'un fragment de la Saxe et des principaux cercles du Rhin. Son poste avancé est sur notre ancien territoire. La Russie a recouvré la Finlande et s'est établi sur les bords de la Vistule. Et nous, qu'avons-nous gagné à ces arrangements? Nous avons été dépouillés de nos colonies. Notre vieux sol même n'a pas été respecté. Landau détaché de la France, Uningue rasé, ouvre une large brèche dans nos frontières. Un combat malheureux à nos armes suffirait pour amener l'ennemi sous les murs de Paris. Paris tombé, l'expérience a prouvé que la France tombe. Ainsi, il est vrai de dire que notre indépendance nationale est livrée à la chance d'une seule bataille et à une guerre de 8 jours. Le partage jaloux et imprudent du Congrès de Vienne nous obligerait, dans un temps donné, à transporter notre capitale de l'autre côté de la Loire, ou à pousser notre frontière jusqu'au Rhin. Les autres capitales de l'Europe, enfoncées dans leurs provinces, défendues par les places et les populations qui les couvrent, sont d'ailleurs peu de choses, et lors même qu'elles sont prises, l'État auquel elles appartiennent n'est pas détruit. Il n'en est pas de même de la France telle que les Alliés l'ont faite. Lorsque j'ai eu quelque pouvoir sous la Restauration, je n'ai cessé de représenter au gouvernement ce danger de la patrie. Des documents officiels, irrécusables, prouveront un jour ce que je voulais ajouter de gloire à la liberté sous le pouvoir légitime. Je ne citerai qu'un mémoire, écrit tout entier de ma main, pendant la guerre de la Russie avec la Turquie. Il est daté de Rome, 30 novembre 1828, et adressé à M. de la Ferronnèse par le billet suivant. Guillemet. Dans votre lettre particulière du 10 de novembre, mon noble ami, vous me disiez « Je vous adresse un court résumé de notre situation politique, et vous serez assez aimable pour me faire connaître en retour vos idées, toujours si bonnes à connaître en pareille matière. Votre amitié, noble comte, me juge avec trop d'indulgence. Je ne crois pas du tout vous éclairer en vous envoyant le mémoire ci-joint. Je ne fais que vous obéir. » Fin des guillemets. La monarchie élective, par un bonheur inattendu, n'avait pas à vaincre les difficultés que je rencontrais à chaque pas. Elle trouvait prêt un peuple dont on ne me laissait pas disposer. Dès le début de sa carrière, la Pologne et l'Italie se soulevaient. La Belgique se livrait à la France. Si les hommes qui conduisent la monarchie élective eussent joint aux plus légères connaissances le moindre sentiment des intérêts du pays, ils auraient saisi une occasion unique de légitimer le nouveau pouvoir. Ils auraient fait occuper la Belgique. Ils auraient dit à l'Europe « Nous allions vous demander la révision des actes du Congrès de Vienne, car ces actes auraient tôt ou tard forcé la France à la guerre pour sa propre sûreté et son indépendance nationale. La victoire vous aurait rendu injuste. La France a été dépouillée, tandis que vous vous êtes fortifié de toutes parts contre elle. Vous vous êtes même ménagé le moyen de pénétrer, quand il vous plaira, jusqu'au fond de ses entrailles. L'inquiétude où nous vivions n'était pas supportable. Il nous fallait un abri. Ce que peut-être nous n'aurions pu obtenir de vous que par la force, la Providence nous l'offre sans effusion de sang. La Belgique se donne à nous, nous l'acceptons, non comme conquête, mais comme barrière. Nous ne demandons plus rien, restons amis. Cependant, si vous voulez tirer l'épée, marchons. Vos peuples vous serviront d'avant-garde. Je ne doute point qu'au premier moment de la Révolution de Juillet, l'Europe terrifiée ne se fût trouvée trop heureuse de rester en paix au prix de la Belgique. En place et lieu de ces choses, quel chaos d'ignorance, de sottises et de misères. Ces ignorances, ces sottises, ces misères devenaient une conséquence forcée du système dans lequel on s'engageait. Une fois le point de départ manqué, il n'y avait plus qu'à se prononcer pour la paix à tout prix, ou la guerre à toute chance. Or, la question ainsi posée devenait insoluble, car aucun homme raisonnable ne peut vouloir la guerre dans un but de conquête, ni la paix avec le déshonneur. La conduite du ministère à l'extérieur n'a donc pu offrir qu'une série de contradictions. D'abord, il a proclamé la non-intervention pour se faire reconnaître, sans se douter où ce système l'allait entraîner. Ensuite, afin de se donner un appui, il a rêvé une alliance contre nature avec l'Angleterre. Dans une guerre défensive, cette puissance ne peut nous mettre à l'abri d'une invasion avec ses vaisseaux et n'a ni argent ni soldats à nous offrir. Nous ne prétendons pas, je pense, défendre Paris avec les gardes anglaises commandées par le duc de Wellington. Dans une guerre offensive, cette même puissance craindrait plus nos victoires que nos défaites. Elle ne nous permettrait jamais d'étendre nos conquêtes jusqu'au Rhin, encore moins au-delà des Alpes et des Pyrénées, encore bien moins au moyen de nos flottes dans la mer Noire et les eaux de l'Orient. Qu'avons-nous donc à espérer d'elle ? Quelle niaiserie de nous croire ses alliés, puisqu'elle a comme nous deux chambres qui ne ressemblent guère aux nôtres. Le peuple anglais possède de grandes qualités. Son gouvernement a de l'expérience et de la fermeté. Mais en politique, il est tout positif. S'imaginer qu'il va devenir le Don Quichotte des libertés du monde, c'est étrangement le méconnaître. Le cabinet de Saint-James s'est-il jamais piqué d'un dévouement sentimental pour les institutions d'un peuple? Il a toujours fait bon marché du salut des rois et des nations, prêt à sacrifier monarchie ou république à ses intérêts. Naguère encore, il proclamait l'indépendance des colonies espagnoles, en même temps qu'il refusait de reconnaître celle de la Grèce. Il envoyait des flottes appuyer le pavillon du Mexique et faisait arrêter dans la Tamise quelques chétifs bateaux destinés aux Hellènes. Il admettait la sainteté des droits de Mahmoud et niait la légitimité des droits de Ferdinand. Voué tour à tour au despotisme et à la démocratie, selon le vent qui amenait dans ses ports les vaisseaux de la cité. Or, dans quelques phrases de journal et de parlement, l'Angleterre a-t-elle sympathisé avec la Pologne? Comment aurait-elle pu trouver mauvais les efforts des Russes pour remettre sous le joug un pays qu'ils regardent comme une de leurs provinces, elle qui a versé des flots de sang pour retenir dans ses chaînes les colonies qui forment aujourd'hui la République des États-Unis? Mais puisque l'on proclamait la non-intervention, devait-on intervenir, toutefois avec le bon plaisir de l'Angleterre, dans les affaires de la Belgique? Pourquoi ces conférences de Londres, plus fâcheuses à la monarchie élective que tous les congrès à la monarchie légitime? Qu'avait-on besoin de ces interminables protocoles, puérils amusements d'une diplomatie reléguée dans les Olympes? Qu'est-ce que ce prince, digne d'un sort plus honorable, ce prince, gardien de port ou préfet roi, Attale que les Goths de la Tamise revêtent d'une pourpre dérisoire, Agamemnon à Mycène, Artevel à Gand. Qu'est-ce que ces forteresses à démolir et qu'on ne démolira pas ou qu'on ne démolira que dans le but de nous nuire? Qu'est-ce que cette armée française accourue au secours du veuf de la princesse Charlotte et retirée sur un ordre de l'amirauté anglaise, comme si le champ de Waterloo ne pouvait être témoin que de nos revers ou de notre honte? Quand nos soldats ne sont plus que les recors des hautes justices de la conférence de Londres, quand l'Europe a appris à compter sur notre faiblesse, il ne fallait pas grande sagacité pour deviner qu'on ne nous souffrirait pas longtemps en Belgique. Doublement joie que nous avons été de cette intrigue, car il était clair que le cabinet de Saint-James désirait secrètement le succès du roi de Hollande. Si le prince d'Orange avait eu 2 ou 3 jours de plus pour entrer dans Bruxelles et pour occuper les places frontières, l'Angleterre nous aurait dit comme le sonnet, « Ma foi, c'est fait. » Et que prétendez-vous, répétait-on à l'opposition, demandant le séjour prolongé de nos troupes en Belgique? L'occupation prolongée, c'est la chute de Lord Grey, c'est le retour du duc de Wellington. Vraiment! Quelle calamité pour la France! Pauvre pays, es-tu descendu si bas que ce soit là des arguments de notre tribune? On disait aussi, la chute du ministère Perrier, c'est la guerre. Entendez cela, petite France. Gardez les ministres que l'on vous impose comme des bonnes, ou le fouet. J'espère du moins que l'on ne viendra plus nous dire que la légitimité fait mal au cœur.
Comme
il n'y a aucune homogénéité entre la France et l'Angleterre, la prétendue solidarité des deux ministères, anglais et français, porte sur des intérêts contradictoires. Ce qui fait le triomphe de l'un fait la perte de l'autre. Le ministère Grey, par exemple, attaque la pairie anglaise. Le ministère Perrier aurait voulu constituer la pairie française. Si le ministère anglais réussit à l'aide des émeutes ou des émissions de pairs, chose inouïe dans l'histoire de la Constitution britannique, il restera au timon de l'État. Mais les éléments démocratiques qu'il aura remués à Londres réagiront sur les éléments démocratiques à Paris et deviendront un nouvel obstacle au ministère français. Celui-ci s'est placé de sorte qu'il devrait désirer deux choses incompatibles, le rejet de la réforme parlementaire et le maintien du ministère Grey. De même, lorsqu'il affectait un sentiment pour les libertés belges et polonaises, il devait être entraîné à trouver bonne la disparition de ces libertés, car tout ce qui tend à développer en France la force populaire met en péril le système de la quasi-légitimité. On a fourni à nos hommes d'État, qui ne s'avisent pas de tout, une de ces raisons dont les hommes d'esprit se moquent après l'avoir avancée. On a dit, sans rire, que la Belgique devait être un pays neutre, attendu qu'on y trouve l'embouchure de plusieurs fleuves, ce qui prouve que Buonaparte avait eu tort de s'emparer de cette province, ce qui prouve que personne n'osera désormais y entrer à cause de l'embouchure de ces fleuves. Ce qui prouve que ce pays deviendra une terre inviolable, une élide où le front ceint d'une branche de houblon, on célébrera des jeux flamands, quand le reste du monde retentira du bruit des trompettes de Bellone. Et c'est précisément parce que de grands fleuves terminent leur cours dans la Belgique, que depuis l'époque où les Romains la connurent, jusqu'à nos jours, jamais terre ne fut plus arrosée de sang. C'est parce que cette terre est commerçante et féconde, parce qu'aucune montagne ne l'abrite, parce qu'elle est ouverte à tout venant, par le cours même de ses eaux. C'est parce qu'elle est frontière des races germaniques et gallo-romaines, parce qu'elle est le passage naturel et inévitable de toutes les armées. C'est à cause de toutes ces circonstances qu'elle n'a cessé, qu'elle ne cessera d'être le champ de bataille de l'Europe, le lieu où se videront à jamais les querelles des peuples. La neutralité des Pays-Bas est un de ces mots nébuleux ajoutés au dictionnaire des non-sens diplomatiques, une de ces balivernes importantes, moquerie pour l'habile, admiration pour le sot, excuse pour le lâche. La fin a répondu au commencement. Les places de Luxembourg, de Maastricht et de Venlo demeurent au roi Guillaume. Que le roi Léopold reste après cela à Bruxelles s'il le peut. La citadelle d'Anvers est remise aux Belges. Lisez, aux Anglais. L'Escaut est livré à la marine militaire et commerçante de la Grande-Bretagne. Ce que la politique de celle-ci avait toujours convoité, et ce à quoi la politique de la France s'était toujours opposée, la partie des marches du Luxembourg et du Limbourg, qui touche à la Prusse, tombe en partage au roi de Hollande, de sorte que les Belges ne pourront rien exporter en Allemagne. La France, dans l'intérêt de son industrie, repousse aussi leurs exportations, qui n'auront plus d'issue que par l'Escaut et le port d'Ostende, sous le monopole anglais. Et c'est dans ce misérable état que la Belgique est chargée d'environ 18 millions de francs de rente, en représentation de sa part à la contribution de la dette du royaume des Pays-Bas. Si Léopold ne paye pas à jour fixe, il viendra des huissiers de Maastricht qui le contraindront par corps à s'acquitter. Et cela s'appelle la grande paix, procurée aux Belges, qui voulaient se donner à nous, au monde, qui tremblait devant nous, par la fière intervention de la quasi-légitimité. En ce qui touche les affaires de la Pologne, l'esprit du ministère ne s'est montré ni plus inventif ni plus résolu. Ces affaires ne se pouvaient arranger avec succès que dans un accord général. Si, comme je l'ai déjà dit, après la Révolution de juillet, on eût demandé la révision des traités de Vienne en acceptant la Belgique. Cette occasion échappée, il n'y avait plus rien de possible sans la guerre, que ce mélange de soupirs et de rodomontades qui blessait à la fois les Polonais et les Russes. Tantôt les ministres venaient déclarer tristement qu'en effet il y avait de bien mauvaises nouvelles de la Vistule, ne se souvenant plus qu'il se disait en parfaite amitié avec la cour de Pétersbourg. Tantôt, sur le bruit d'un succès de Zrizneki, ils tombaient en admiration et portaient la main à la garde de leur épée. Il est vrai que leur épée est restée dans le fourreau et que leur admiration a assisté à la prise de Varsovie où, comme chacun sait, tout était tranquille après la mort. La nation faisait-elle éclater le désir de secourir des frères d'armes? Ce désir était refoulé dans les cœurs par des plans de campagne. On supposait que la France était tombée en enfance. On venait lui conter qu'il fallait passer sur le ventre de la Prusse, être victorieux pendant 3 ou 4 ans pour arriver à Varsovie. Comme si, à la guerre, un succès sur un point ne délivre pas un autre point attaqué. Une victoire sur le Rhin n'a-t-elle pas 20 fois décidé du sort de l'Italie? Des traités de paix n'ont-ils pas 20 fois agrandi et reconstitué des royaumes occupés par l'ennemi? Mais il ne se serait pas agi de guerre si l'on eût pris la chose en temps utile. On n'aurait pas, sans pouvoir y satisfaire, manifesté des inimitiés irréfléchies pour l'Empire russe, qui sera toujours notre véritable allié, parce que sa position géographique, ses intérêts, ses ennemis naturels qui sont aussi les nôtres, l'ont fait tel. Cette cour doit avoir à cœur de réparer le tort de la déloyale ambition de Catherine, d'effacer une page honteuse de son histoire et de la nôtre, de rétablir un royaume dont les ruines immortelles accuseraient ses destructeurs. On est réduit à argumenter aujourd'hui des traités de Vienne en faveur de la nationalité polonaise. Le cabinet de Pétersbourg vous répondra qu'il vous sied mal d'être si scrupuleux. Lorsque vous êtes intervenu pour détruire le royaume des Pays-Bas, ouvrage bien plus immédiat de la Sainte Alliance. Varsovie a succombé. Nous en avons été quittes pour une oraison funèbre et quelques larmes déjà séchées. De ces larmes, nous sommes passés à la consolation. Nous avons fini par trouver que la Pologne ne pouvait exister comme nation, vu le ras de sa surface. Or, comme la France est aussi un pays de plaine, depuis l'Escaut jusqu'à la Loire, c'est évidemment contre nature que nous prétendons rester français et indépendants, du moins dans cette partie de notre territoire. On ne manquera pas de stratégistes de cabinet qui prouveront, carte en main, que nous devons être vaincus et partagés à cause du cours de la Seine et de la Marne. Parlez-leur des héritiers des Jagellon et des Sobieski. Ils vous enseigneront le secret de leur défaite, mais ils ignorent celui de leur héroïsme. Les marquis de la monarchie absolue ont perdu la Pologne, chapeau sous le bras, et les chevaliers de la monarchie élective, chapeau bas. Il y a progrès. Quant à l'Italie, une seule observation suffisait pour intéresser notre équité à sa politique. Tous les peuples ont plus ou moins profité de notre révolution. La France elle-même est devenue libre. Des gouvernements constitutionnels se sont formés en Allemagne. La Prusse s'est créée des communes et des assemblées provinciales. Le Danemark et la Norvège ont reçu des chartes ainsi que les Pays-Bas. La Grèce, les colonies espagnoles et portugaises se sont émancipées. L'Irlande a brisé ses entraves. La Pologne a repris son nom. Et quel nom ! L'Italie seule, au lieu d'obtenir quelques libertés, a vu disparaître celles dont elle jouissait avant 1789. Les républiques de Gênes et de Venise ont été anéanties. Lucques même, comme république, a péri. La Sicile n'assemble plus son parlement du Moyen-Âge et jusqu'aux communes de l'État napolitain ont perdu leur franchise municipale. Autant en est arrivé à la Romagne. Le souverain pontife se trouvait dans une position étrange. Les Romagnols s'insurgent au bruit des journées de juillet. Nous leur déclarons que pas un Autrichien n'entrera sur leur territoire. Et aussitôt les Autrichiens occupent tout le pays, depuis Bologne jusqu'à Ancône. Nous invitons la cour de Rome à congédier les Autrichiens. « Je ne demanderais pas mieux, dit-elle, si je n'étais trop faible pour rétablir l'ordre. » Alors nous proposons des troupes, et l'on nous répond « Leur cocarde, au lieu d'arrêter la révolution, la propagera. » Ainsi le pape ne se pouvait garder. Nous ne voulions pas qu'il fût gardé par des Autrichiens. Et, si nous prétendions le garder nous-mêmes, nous soulevions ces États. Quand nous étions au pied de toutes les puissances et quand tous les peuples nous appelaient à leur tête, nous avons trouvé le secret d'être suspects à ces puissances et de trahir la confiance de ces peuples. À Dieu ne plaise que je me fasse l'apôtre de cette propagande qui prétend, coûte que coûte, sang et pleurs, anarchie et ruine, établir des institutions pareilles en tout pays, comme si la civilisation atteignait partout le même niveau. Il me semble voir des costumiers qui, n'ayant qu'une forme et qu'une mesure, jettent le même habit tantôt sur le dos d'un nain, tantôt sur celui d'un géant. Manteau court pour l'un, robe traînante pour l'autre. Toutefois, il ne se faut pas accoutumer à traiter à tort et à travers de carbonari et de révolutionnaires les peuples qui font entendre de justes plaintes. Les arts ont consolé longtemps les Italiens de la perte de la dignité de la vie. Mais tant de génie sera-t-il éternellement renfermé dans les chants des poètes, dans les chefs-d'œuvre des architectes, des peintres et des sculpteurs? Les papes qui défendirent l'indépendance italienne dans les siècles barbares, ne pourraient-ils encore la défendre dans les siècles éclairés? La liberté ne saurait-elle avoir son Léon X comme les arts eurent le leur? La papauté n'a perdu sa puissance, je l'ai remarqué ailleurs, entre parenthèses, études historiques, que quand elle a cessé d'être guelfe ou populaire, pour se faire gibeline ou impériale. Elle était née du peuple. En reniant son origine, elle s'est affaiblie. Qu'elle remonte à sa source, qu'elle prenne en main la cause sainte de la liberté, que, fidèle à son mandat primitif, elle réclame au nom de l'Évangile l'égalité et l'affranchissement des hommes. Et Rome chrétienne, au lieu de rentrer dans les catacombes, en sortira avec de nouvelles palmes. De nouveaux Raphaël consacreront au Vatican ses nouveaux triomphes. Grégoire XVI est à la fois un des hommes les plus savants et un des princes les plus éclairés de l'Europe. Ses sujets ont tout à espérer de ses lumières et de ses vertus. J'ai habité un sol étranger. Je m'affligeais de désespérer du courage de notre gouvernement, dans les lieux mêmes où le bras de nos soldats fendit les rochers des Alpes, pour donner passage à leur victoire. Mais que j'étais bête! Je me figurais que l'on voulait la paix à tout prix par goût. Ce n'est pas là le fin mot. France, sachez donc que si l'on a fait si bon marché de votre honneur, c'est que vous n'étiez pas capable de le défendre, que vous n'aviez ni argent ni soldats. Et vous, étrangers, apprenez de cet aveu que si vous entrez dans le royaume avec des troupes régulières, nombreuses et bien disciplinées, vous nous battrez. Bonnes gens et politiques chevalereux, disaient d'autres ministériels plus accommodants, vous vous sentez blessés du système de nos seigneuries. Vous auriez voulu avoir un peu d'honneur, le pain quotidien du pays, mais y avez-vous bien pensé? De l'honneur, c'est la guerre. La guerre, c'est la banqueroute. Les mesures acerbes, la confiscation, les échafauds. Le cas échéant, il faudra bien que vous marchiez aux frontières, et le moyen de vous y faire marcher, c'est d'abord de vous couper le cou. Nous vous prêchons donc la paix par commisération pour vous et votre faiblesse, car d'ailleurs, nous aimons la terreur, nous avons en son droit une admiration profonde. Que nous importe à nous qu'on batte monnaie avec des guillotines ou des paroles? Le fond des choses, c'est l'argent. D'autres graves personnages, qui sont les prélats de la quasi-légitimité, nous considéraient comme des chiens enragés, prêts à nous jeter sur l'Europe si de vigoureux valets ne nous tenaient à la chaîne. Voilà ce que des Français ont débité publiquement. Ils ont dépouillé la patrie, leur mère. Ils ont mis à nu ses plaies secrètes. Ils l'ont exposée à la dérision des puissances. Ils nous ont montré à celle-ci comme une proie facile à dévorer, ou comme des hommes qui ne trouveraient d'énergie que par la terreur. Ainsi notre courage passé, qu'attestèrent tant de conquêtes, n'aurait été que le fruit d'une peur placée derrière nous, notre gloire que le résultat de nos crimes. Soyez sages, a-t-on osé nous dire, et vous ne serez envahis. Et une telle parole a pu sortir de la bouche d'un Français, et le cœur de ceux qui l'ont entendue, cette parole, n'a pas palpité, et le sang n'a pas bouillonné dans leurs veines. À force de travail, de raison et de patience, une nation peut recouvrer la liberté intérieure lorsqu'elle l'a perdue. Mais comment retrouverait-elle au dehors l'indépendance et l'honneur lorsque l'une et l'autre ont été immolées? Direz-vous que l'existence de la royauté de Philippe tenait essentiellement à ce régime de concession et de vilité, que tout autre l'aurait fait mourir, qu'elle ne pouvait vivre que d'ignominie? Dans ce cas, la France ne doit pas se charger des frais du banquet. Si l'édifice de Juillet ne repose que sur le sacrifice de la dignité nationale, il croulera. On ne bâtit aucun monument durable sur le déshonneur. Les arcs de triomphe, qui ne seraient cimentés qu'avec de la boue, ne parviendraient point à l'avenir. Je proteste de toute la force de mon amour pour mon pays contre ces déclarations des quasi-légitimistes. Non, la France n'a pas besoin d'être poussée par le bourreau pour marcher au combat. Non, elle ne désire point se précipiter sur l'Europe. Mais elle ne veut point être foulée aux pieds. Elle ne retournera ni au règne de Louis XV, ni au règne de Danton. Elle ne souffrira ni commissaires anglais dans ses ports, ni égorgeurs sur ses places publiques. Elle ne reverra Manon Lescaut qu'à l'opéra, et les tricoteuses qu'au théâtre du boulevard. Mais elle doit connaître sa position, ne pas se laisser tromper par des leurres, et savoir ce qui la menace. N'en doutons point. Les puissances étrangères qui avaient déjà tant de peine à supporter nos libertés de presse et de tribune, avec la légitimité, les supporteront encore bien moins avec le principe avoué de la souveraineté du peuple et une couronne adjugée dans la rue. Elles peuvent dissimuler, attendre, désarmer pour un temps dans une certaine mesure, vous dire que par votre système pacifique, vous êtes les sauveurs de l'Europe, et votre orgueil sera peut-être assez naïf pour croire à cette grosse flagornerie. Mais quand vous avez laissé aux divers cabinets le loisir d'étouffer les révolutions, fi de la vôtre, quand vous leur avez déclaré tout haut, que vous leur avez démontré que vous n'êtes pas en état de faire la guerre sans vous enfoncer dans la banqueroute et la terreur, vous avez manqué aux plus simples lois de votre propre conservation. Ce ne sont pas ceux qui défendent l'honneur de la France qui sont les partisans de la guerre. C'est vous qui, par votre pusillanimité, aurez exposé votre patrie à une invasion nouvelle. Vous aurez la paix à présent, je le crois. On ne peut pas donner de l'épée dans le ventre à celui qui tourne le dos. Mais est-ce ainsi qu'en France on demande la paix? Dans ce pays, l'honneur est pour ainsi dire autochtone, inhérent au sol. Mes sentiments et mes principes ne sont pas nés des circonstances, ils ne sont pas d'aujourd'hui. Il y a quelque 25 années que j'écrivais ces mots dans mon itinéraire de Paris à Jérusalem. Il n'en est pas d'une nation comme d'un homme. la modération dans la fortune et l'amour du repos, qui peuvent convenir à un citoyen, ne mèneront pas bien loin un État. Sans doute, il ne faut jamais faire une guerre impie. Il ne faut jamais acheter la gloire au prix d'une injustice. Mais ne savoir pas profiter de sa position pour honorer, agrandir, fortifier sa patrie, c'est plutôt dans un roi un défaut de génie qu'un sentiment de vertu. Au procès que je viens d'intenter à notre politique extérieure, qu'opposera-t-on une fin de non-recevoir ? Il est possible, dira-t-on, qu'on ait fait fausse route, mais l'erreur est irréparable. Donc il est inutile de rabâcher des objections rebattues dont le public commence à se fatiguer, et auxquelles, par sa mobilité naturelle, il ne prend déjà plus d'intérêt. Les affaires de la Pologne, de l'Italie et de la Belgique sont terminées. Les occasions de se montrer avec dignité sont manquées, des traités sont conclus, signés. La France est entrée dans des voies pacifiques. À force de lui répéter que la guerre était pour elle la fin du monde, elle se plaît dans sa torpeur et ne veut plus entendre parler de batailler. Quel moyen de revenir aujourd'hui sur la chose jugée, de chercher querelle à nos voisins avec l'intention de reprendre une position qui n'est plus reprenable. En diplomatie, on doit partir du point où l'on se trouve. Les plus honorables regrets ne sont pas des raisons pour un homme d'État. Avalons l'ignominie, taisons-nous, amusons-nous si nous pouvons, en guettant l'avenir. Si mes arguments avaient pour but de renverser le système ministériel, de détruire ce qui a été fait à l'extérieur depuis un an, il ne serait que des récriminations sans conclusion et sans valeur. Mais ce n'est pas là ce que j'ai voulu. J'ai remis le passé sous les yeux du lecteur. J'ai inventorié de sales guenilles, non pour amener un autre ministère avec un autre système, que m'importe à moi et les ministres et leur système, mais afin de prouver que la monarchie actuelle s'est blessée à mort en abaissant la nation au-dessous de sa dignité européenne. On n'a pas su employer l'énergie des générations nouvelles. Charles II plongea l'Angleterre républicaine dans les bras des femmes. Il semble que l'on ait voulu précipiter la jeunesse de Juillet dans l'hébétement du ministérialisme, autre espèce de débauche. Mais les gouvernements amassent ainsi contre eux des trésors de mépris et de haine. Ce passé d'hier qui fatigue et importune aujourd'hui reparaîtra, terrible, à l'heure plus ou moins éloignée, mais inévitable, des reproches et des réactions. La France ne dormira pas toujours. Comme au héros du Tasse, il suffira de lui présenter un bouclier pour la tirer du sommeil. Alors elle dispersera ce troupeau des faibles et des égoïstes qui l'environnent. Nous arrivons à la troisième question.